19h de l'après-midi.
Il est 19h. 1.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Là, si la machine descend, là, il y a une trentaine d'arbres qui vont tomber, là. 30 arbres qui ont mis 120 ans à pousser, quoi. Ils ont vu les deux guerres, quoi. Ils ont vu nos grands-parents passer dessous. Ne pétez pas ces arbres, s'il vous plaît, quoi.
31 août 2023, chantier de l'autoroute A69.
À partir du moment où la tête abatteuse touche un arbre, j'entre en grève de la faim.
Extrait du documentaire de Off Investigation, Autoroute A69, l'affaire personnelle de Macron.
Si vous continuez à couper les arbres, même si vous pensez qu'en ayant fini d'abattre tous les arbres, je vais sortir de la grève de la faim, je la continuerai pour les terres agricoles. Ça prend effet à partir du moment où la machine touche un seul arbre.
Salut les amis, c'est JBD pour Polémique, c'est la voix off.com et pour votre radio encore libre préférée. On va aujourd'hui à nouveau parler d'écureuils avec votre invité, Thomas Braille, l'un des fondateurs du GNSA, Groupe National de Surveillance des Arbres, l'un des écureuils de la 69 qui a aussi fait 40 jours de grève de la faim dans un arbre devant le ministère de la Transition écologique. Retour sur l'origine du terme écureuil.
En fait, il y a un grimpeur du GNSA qui a pris un arbre sur la 69. Une fois qu'il était en haut de l'arbre, il a dit « tant qu'il y aura des arbres, il y aura des écureuils ». Et cette expression, elle est restée en fait. Quand on parle des écureuils, ben on a tout de suite en tête la 69. C'est le mode d'action du GNSA, Groupe National de Surveillance des Arbres. D'autres l'utilisent maintenant et tant mieux. Nous, on n'a pas d'armes en fait, on n'a rien. Notre seule arme, ce sont nos cordes et nos téléphones. Nous, on est dans la non-violence, je parle pour le GNSA, on est vraiment dans la non-violence. On essaye de faire comprendre les choses par non-violence. On y arrive, on n'y arrive pas. Mais en tout cas, c'est notre façon de faire, on fait du mieux qu'on peut. Quoi.
Thomas Braille, on l'a rencontré à Juvisy en octobre 2025 lors d'une escale de l'expédition Bateau Labo. Et depuis cette conversation, le feuilleton judiciaire de l'A69 a dramatiquement rebondi. Vous verrez au cours de cette émission que ces militantes et militants écologistes désignés par le pouvoir comme d'épouvantables et dangereux éco-terroristes sont de fait, et même si ça peut en agacer certains et certaines qu'on le dise, des défenseuses et défenseurs du bien commun, du droit et de la légalité.
Je veux dire, aller s'accrocher dans un arbre, c'est facile, mais l'idée à la base, c'est de dire il y a des articles de loi, là vous avez une illégalité sur les espèces protégées, et nous on est là parce que vous ne la respectez pas. Quand il y a des illégalités, ben, en fait la loi elle est la même pour tout le monde, et quand il y a des arbres, quand on peut les sauver, bon sang, essayons de les sauver. L'oxygène qui rentre dans mes narines aujourd'hui me permet d'échanger avec toi, et toi pareil. On a des températures de plus en plus caniculaires, et à partir du moment où on aura de moins en moins d'arbres sur cette terre, il va faire de plus en plus chaud. Et c'est déjà le cas en fait. Quoi. Au lieu de renforcer les lois de protection parce que tout va mal, on ouvre encore plus les vannes. Carrément, en fait, on veut faire passer une loi pour déprotéger les espèces protégées. C'est n'importe quoi. Et on dit aux grands porteurs de projets qui veulent piller, eh bien, allez-y, pillez encore plus, quoi. Je suis atterré, en fait, quoi. Je suis vraiment atterré, quoi.
Il va vous le raconter au cours de cette conversation. Avant de se lancer dans ces luttes de défense du vivant, Thomas Braille n'était pas un militant chevronné, mais un citoyen lambda, père de famille et artisan.
Tout ça, je ne connaissais pas, moi, tout cet univers-là, en fait. Je n'avais jamais côtoyé de ZAD, je ne savais pas ce que c'était, en fait. Je n'avais jamais les zones d'action, les zones à risque. Tout ça, je ne connaissais pas avant la 69. J'avais fait des actions pour sauver des arbres, mais ça n'avait rien à voir de ce que vraiment une lutte. Je sais aujourd'hui ce que c'est que l'odeur des gaz lacrymogènes, je sais tout ça, mais je ne l'ai pas fait par envie, je l'ai fait par nécessité, en fait. Moi, je suis chef d'entreprise, quoi. J'ai une entreprise. J'ai perdu beaucoup d'argent depuis que je travaille pas. Après, je suis pas en train de pleurer, je suis pas en train de demander des sous. C'est un choix de vie, quoi. Et puis, on fait du mieux qu'on peut, quoi, quotidiennement. Donc, bien évidemment, il n'y a rien de facile. Mais on fait ça parce qu'on a des gosses et parce qu'on n'a pas envie de les laisser dans la galère, tout simplement, quoi. Voilà.
15 octobre 2025, l'expédition Bateau Labo qui navigue en direction de l'estuaire du Danube fait escale à Juvisy, donc en banlieue parisienne, pour une table ronde où l'on rencontre Thomas Braille. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Ça fait depuis 2019 qu'on t'entend à la radio, qu'on te voit sur écran, notamment un off investigation assez terrible hein, sur l'A69 avec les écureuils et avec le GNSA, le groupe national de surveillance des arbres. Aujourd'hui, on se rencontre fin octobre. Comment vas-tu ?
Écoute, ça va, on a eu le temps de s'en remettre, quoi. C'est vrai que ça n'a pas été une épreuve facile, parce que la dernière lutte, elle a mis nos corps à dure épreuve, et nos cœurs, oui, j'ai envie de dire même, à dure épreuve. Donc voilà, il y a eu des grèves de la faim, il y a eu des grèves de la soif, j'étais pas le seul à le faire non plus, hein. Je m'attribue pas la gloire de ces trucs-là, mais bon, voilà, ça a été assez compliqué, ouais, vraiment, quoi.
Et là, ça va, vous vous êtes retapé, toi et tes copains écureuils?
Oui, parce que là, ça commence à faire maintenant un petit peu de temps que les choses se sont passées, donc on a eu le temps de s'en remettre. Après, si je dois parler personnellement, c'est vrai que des grèves de la faim, c'est assez dangereux. Enfin, moi, personnellement, j'ai fait 40 jours et on tape dans la graisse. Et comme moi, je n'avais pas trop de graisse à la base, parce que mon métier est assez physique, et en fait, on tape dans le muscle après. Et ça laisse quand même des séquelles, quoi.
Ça doit taper aussi dans le moral.
Bien sûr, ça tape dans le moral. Après, on ne va pas se mentir, les luttes elles sont assez compliquées. On n'est pas toujours en haut. Enfin, le moral, il n'est jamais toujours en haut. Un coup, c'est en haut, un coup, c'est en bas. Ça fait le yo-yo en permanence. Donc, il faut se trouver des plages, en fait, où on se ressource. Moi, mes plages de ressourcement, c'est mon fils, quoi. Mon petit garçon, moi, je me bats pour lui. Et on a cette responsabilité en tant que parent de le faire. Donc, si on n'a pas compris que nos gamins, on va les mettre dans une position délicate si on ne fait rien aujourd'hui, et ben, en fait, voilà, faut pas faire de gamins, j'ai envie de dire, quoi.
Les gens comme toi, comme tes copains écureuils, sont souvent qualifiés d'éco-terroristes. Alors, avant qu'on parte là-dedans, est-ce que tu pourrais nous rappeler ce que c'est que L350 alinéa 3, hein, vu que tu es un vilain voyou hors la loi?
En fait, moi, j'étais un citoyen lambda qui avait un travail, qui avait une famille.
Tu es arboriste, hein, c'est
moi,
comme ça qu'on dit.
Je suis arboriste grimpeur de profession. Donc, en fait, je grimpe dans les arbres en technique alpine. À l'époque, on disait grimpeur élagueur, mais ils ont fait pas mal de bêtises avec les arbres. Du coup, on a un peu remodeler ça et aujourd'hui on a un travail plus éthique avec les arbres. Moi j'étais quelqu'un de lambda et à un moment donné dans la vie d'une personne il y a des choses qui basculent et on se dit qu'il y a des choses qui sont pas tolérables et en fait c'est comme ça qu'on bascule vers peut-être une lutte plus profonde mais enfin, tout le monde à un moment donné peut s'y mettre, c'est juste que est-ce qu'on fait la bascule ou est-ce qu'on la fait pas.
Tu disais là nous les écureuils on fait pas ça par plaisir ou pendant que vous luttez. Vous n'êtes pas au boulot, vous ne occupez pas de vos familles. C'est aussi un prix très lourd à payer, c'est-à-dire que tu ne vois pas ton gosse et les sous, ils ne rentrent pas.
Non, mais en fait, c'est exactement ça. En fait, on nous fait passer pour des pulapis, hein. Souvent c'est ça qui ressort. Donc pulapis, d'éco-terroristes, de chômeurs, de tirs au flanc, comme quoi on tirerait sur les allocations, j'en sais rien. Bon, enfin bref. Enfin, il n'y a pas que ça dans les luttes. Mais, bien sûr, il y a des gens, parfois, ils ont du temps à donner. Bon, ce sont des personnes que je respecte et qui sont hors système parce qu'ils trouvent que le système ne fonctionne pas. Ben, moi, je respecte leur point de vue parce que je trouve que le système il pourrait mieux marcher que ça. Et après, la grande majorité des gens, c'est des gens qui ont des familles. Parfois, peut-être oui, qui ont des petits crédits et qui font du mieux qu'ils peuvent. Ils essayent de cumuler le travail et puis le temps qu'il leur reste pour aller sur les luttes. Moi, je suis chef d'entreprise, quoi. J'ai une entreprise. J'ai perdu beaucoup d'argent depuis que je ne travaille pas. Après, je ne suis pas en train de pleurer, je ne suis pas en train de demander des sous. C'est un choix de vie, quoi. Et puis, on fait du mieux qu'on peut, quoi, quotidiennement. Donc, bien évidemment, il n'y a rien de facile. Mais on fait ça parce qu'on a des gosses et parce qu'on n'a pas envie de les laisser dans la galère, tout simplement, quoi. Voilà.
Avec des modes opératoires qui relèvent, je n'ai pas peur de le dire, de l'éco-terrorisme. Et je veux redire que cela relève de l'éco-terrorisme.
Toujours avec Thomas Braille, l'écureuil, insistons sur ce gros mensonge du pouvoir consistant à faire passer les écologistes pour des terroristes. Or, que ce soit sur l'A69, les méga-bassines et autres luttes écolo, c'est supposé, hors la loi, défendre le droit et la loi, ici le respect de l'article L253-3.
Pour venir au L350-3 du Code de l'environnement, ouais, ça c'était en 2019 en fait à Mazamé. Moi j'étais jardinier pendant 10 ans dans cette ville et il se trouve qu'il y avait l'abattage d'un alignement de 9 platanes qui était à peu près âgé de 120 ans. Et j'ai appris qu'on voulait les abattre, sauf que c'était pas mon secteur de la ville que j'entretenais. On avait plusieurs secteurs, c'était divisé en secteurs, sauf que ces arbres-là je les connaissais quand même. Et les anciens collègues sont venus m'alerter en me disant qu'ils voulaient les couper. Je me suis dit, tu vas aller parler au maire pour lui expliquer que c'est pas possible. Ces arbres-là, il faut les garder. Ils n'ont pas une vocation économique. Ils sont au bord de la route. Ils jouent un rôle de décarbonation, de dépollution, d'oxygénation, d'humidification. Et puis, une fois que j'ai eu parlé avec le maire, on a l'impression que tout se passe bien. Et puis, au final, c'est pas du tout le cas, en fait. On attend. On n'a pas de réponse de la municipalité. Et on sait très bien qu'il y a un truc pas bon qui se prépare. Ben en fait, ils ont abattu sur les 9, il y en a 3 qui ont été coupés, moi j'en ai sauvé 7. Et en fait, c'est de là que tout s'est enchaîné, c'est de là où, c'est pareil, j'ai basculé en me disant, mais en fait, c'est pas possible quand même, ces arbres-là, ils sont protégés par un article de loi qui interdit l'abattage des arbres d'alignement. Donc, et puis de là, de fil en aiguille, je suis parti 28 jours au ministère de la Transition écologique, m'accrocher devant le ministère pour expliquer clairement que la ministre qui à l'époque était Elisabeth Borne, que ces arbres-là, il fallait les protéger mieux que ça. On a travaillé 1 an et demi avec le ministère de la Transition écologique et au bout d'un an et demi, on a essayé de coller un décret d'application parce qu'une loi, normalement, elle est suivie d'un décret d'application. Et en fait, on s'est aperçu que le décret, il était bien moins protecteur que la loi. Donc, en fait, c'était une régression permanente des protections environnementales. Et en fait, ça m'a complètement saoulé. Donc, je suis reparti plutôt en lutte dans les arbres, à monter une association que d'essayer de croire aux paroles politiques. Et après, voilà, ça dépend aussi des gouvernements qu'on a. Mais bon, celui-là, c'est difficile de lui faire comprendre quelque chose, quoi.
Toi qui as eu l'occasion d'approcher cette femme de pouvoir, Elisabeth Borne, donc à l'époque qui était au ministère de la Transition écologique, toi qui as pu l'approcher, discuter un peu avec elle, je ne sais pas si cette personne a des enfants qui, comme nous tous, sont composés environ de 70% d'eau. Mmh. Quelle impression t'as fait de cette personne? Est-ce qu'elle a un cœur et un cerveau qui fonctionnent? Bon, je me pose souvent la question, mais qu'est-ce que ces gens qui pilotent cet écocide-là ont dans le crâne et dans le cœur? Quel ressenti ça t'a fait?
Enfin, quand je regarde quelqu'un dans les yeux, j'ai toujours tendance à capter un petit peu ce qui se trame dans sa tête. Ces personnes-là, elles sont, j'ai envie de dire, il y a une forme de déconnexion quelque part, quoi. Elles sont soumises à des rendez-vous, elles font venir les gens, ça défile. Après, ce qui se passe intérieurement, pour la plupart, je pense que... je ne sais pas s'il y a quelque chose de vivant, en fait, dans ce corps, dans le corps de ces gens-là, en fait. C'est la question que je me pose. S'il n'y a pas de cœur, s'il n'y a pas de ressenti, s'il n'y a pas d'humilité, vous parlez, en fait, à des sculptures en plâtre, quoi. Mmh. Et moi, je trouve ça assez atterrant, quoi. Je ne sais pas, en fait, j'ai l'impression que l'humanité se vide de cette sensibilité profonde et j'ai l'impression que c'est voulu aussi, quoi. Si on n'a plus de sensibilité, ben, en fait, c'est la porte ouverte à avoir des crimes à la télé, avoir des gamins... moi, quand je peux en parler de Gaza, mais je ne regarde même pas aller à la télé. Je sais ce que c'est, un gamin qui va mourir, quoi, mais... je sais pas, j'ai l'impression qu'on continue à regarder ça et puis on peut bouffer son steak en même temps, quoi. Moi, ça m'attriste, en fait, quoi. Ouais.
Ouais. Je souhaitais ouvrir cet entretien sous un aspect juridique des choses. Et puis, bon, t'as compris la grosse ficelle, hein, de démontrer que, en fait, malgré ce que disent les médias dominants, les méchants sont pas ce qu'on essaye de faire croire à l'opinion publique. D'ailleurs, les tribunaux administratifs, comme celui de Toulouse, par exemple, l'a bien tranché sur la 69 en disant, bah non, en fait, les promoteurs et les bétonneurs sont dans l'illégalité. Même chose pour les bassines de Sainte-Soline, etc. Juste revenir sur un petit paradoxe juridique, c'est que le groupe national de surveillance des arbres est une association reconnue d'utilité publique.
D'intérêt général.
Pardon.
Ah oui, c'est reconnu d'intérêt général et pas d'utilité publique pour l'instant.
Donc par l'État, ce même État qui envoie des fonctionnaires de police ou des gendarmes taper sur des gens reconnus d'intérêt général.
Oui, c'est des choses qu'on met souvent en avant. On dit, c'est tout le paradoxe en fait du truc, quoi. C'est-à-dire que, en fait, nous, on ne part jamais en lutte avec le GNSA si on n'a pas les outils juridiques derrière nous et si on n'a pas vérifié qu'il y a des articles de loi qui sont bafoués. Parce qu'on a une équipe d'avocats bénévoles performants et performantes. Et du coup, on creuse les dossiers et on ne part jamais sur un dossier si on ne l'a pas travaillé, quoi. Je veux dire, aller s'accrocher dans un arbre, c'est facile, mais ce n'est pas forcément ça l'idée à la base. L'idée à la base, c'est de dire il y a des articles de loi, là, vous avez une illégalité sur les espèces protégées. Vous avez une problématique là, et nous, on est là parce que vous ne la respectez pas. Et le pire, c'est que c'est nous qui, entre guillemets, qui dérouillons, hein, parce qu'une fois qu'on nous attrape, c'est de la garde à vue, c'est des procès. Bon, moi, je tiens à rappeler quand même que sur la 69, je n'ai pas été condamné, mais j'ai été appelé devant les tribunaux parce que j'avais bloqué donc justement l'abattage d'arbres qui étaient protégés par le L350-3 et j'avais aussi bloqué une pelle mécanique qui voulait abîmer le système racinaire d'un arbre. On touche toujours au L350-3 puisque que ce soit le houppier ou le système racinaire, la loi elle est valable pour l'arbre en entier, quoi. Et il se trouve que moi, j'ai été relaxé pour état de nécessité climatique. Et en fait, c'est assez rare, en fait, dans le domaine des défenseurs de l'environnement, d'être relaxé pour état de nécessité climatique. Donc ça prouve bien que la juge, elle a compris, en fait, le travail qu'on faisait. Elle a compris que le travail que l'on faisait, il était juste. Et voilà. Et en fait, c'est toujours nous qui perdons notre temps dans les gardes à vue, dans les tribunaux, parfois avec des peines et des amendes et tout, alors que les autres en face, il ne leur arrive strictement rien la plupart du temps. Et c'est tout ça qu'on est en train de dénoncer aujourd'hui. Nous, on ne fait pas ça pour embêter. Moi, je ne fais pas ça pour embêter. Moi, je fais juste ça pour dire que quand il y a des illégalités, ben, en fait, la loi elle est la même pour tout le monde. Et quand il y a des arbres, quand on peut les sauver, bon sang, essayons de les sauver. Parce que comme je le dis, l'oxygène qui rentre dans mes narines aujourd'hui me permet d'échanger avec toi et toi pareil. Donc on a des températures de plus en plus caniculaires et à partir du moment où on aura de moins en moins d'arbres sur cette terre, il va faire de plus en plus chaud. Et c'est déjà le cas en fait, quoi.
Comprendre aussi qu'il ne s'agit pas seulement que des arbres. L'arbre, en fait, en tant que représentant d'une grande chaîne dont on fait partie, toi et moi aussi. L'arbre, l'eau, l'arbre, il n'y a pas de l'un sans l'une. Et voilà. Et nous, on est au milieu de tout ça.
Ouais. En fait, j'étais en train de regarder mon téléphone en même temps que je te parle parce que l'État, en ce moment, est en train d'essayer de faire passer une loi pour déprotéger les espèces protégées. Quoi. Voilà, aujourd'hui, on est le 15. Donc, ça s'est arrêté hier au 14, la consultation publique. Donc, tout le monde pouvait laisser un commentaire. Et on a grandement relayé ça avec toutes les associations environnementales. Enfin, c'est quand même triste de se dire qu'aujourd'hui, on n'aura même plus besoin de demander des dérogations pour destruction d'habitats d'espèces protégées, même si je trouve que ces dérogations sont totalement à côté de la plaque, puisqu'on demande à détruire des espèces qui sont protégées. Mais bon, bref. Mais là, carrément, en fait, on veut faire passer une loi pour déprotéger les espèces protégées. En fait, ça veut dire que la filière bois, elle va pouvoir entrer dans les forêts, raser les forêts comme elle veut, quand elle veut. Ça veut dire des coupes rases, hein, veux-tu en bois là pour de la biomasse ou j'en sais rien. Sans demander de dérogation, en fait, c'est open bar. Ça veut dire qu'on va pouvoir chaluter n'importe où sans dérogation d'espèces protégées, parce que peut-être qu'à des moments, ben, il y a des poissons qui se reproduisent à telle ou telle date. En fait, c'est n'importe quoi. Au lieu de justement renforcer les lois de protection, parce qu'on est en 2025, parce que tout va mal, ah ben en fait, on ouvre encore plus les vannes et on dit aux grands porteurs de projets qui veulent aller encore plus vite, qui veulent piller, eh ben allez-y, pillez encore plus, quoi. Moi, je suis atterré, en fait, quoi. Je suis vraiment atterré, quoi. Voilà.
Là, l'État, en ce moment, la Macronie, puis les autres, ils sont en train de détricoter de grandes lois environnementales, mais certaines qui datent des années 70. Tu disais open bar, là, ils sont en train de tout défoncer. Et pour tout défoncer, d'abord, on défonce le juridique, les lois.
Oui, on le voit, il y a une vraie régression mondiale, hein, même au niveau de la justice. On a l'impression que la parole politique, aujourd'hui, à partir du moment où certaines personnes sont au pouvoir, en fait, on a l'impression que ce qu'ils disent, c'est du pain béni, et puis on s'assoit sur ce que les magistrats ou les tribunaux pourraient dire. Et c'est là où il y a une vraie dangerosité, en fait. C'est que si on laisse tout ça comme ça en place aujourd'hui, avec tous ces politiques qui pensent que leur parole, c'est du pain béni, en fait, et qu'il faut s'asseoir sur les décisions de justice... Ben, c'est le début des dictatures, en fait, quoi. Et ça, c'est plus possible, quoi. Il faut qu'il continue à y avoir une vraie séparation des pouvoirs. Il faut que les tribunaux ils puissent juger en toute impartialité. Il ne faut pas qu'il y ait de pression politique. Et ça, aujourd'hui, j'ai envie de dire, on le voit dans certains pays, c'est vraiment compliqué. Et pour en revenir à la 69, le 27 février, il y a une décision de justice qui a dit qu'il n'y avait pas de raison impérative d'intérêt public majeur pour la construction de cette autoroute. Et malgré ça, quelques mois après, on a un rapporteur public qui, d'ailleurs, je tiens à le dire, n'avait absolument pas étudié le dossier, qui est arrivé la fleur au fusil, qui a subi très certainement des pressions politiques parce qu'il est tout blême quand il balançait ses arguments. Et le tribunal, à nouveau, a statué en faveur de la reprise des travaux. On appelle ça un sursis à exécution. Ça veut dire qu'ils ont le droit de continuer les travaux tant que l'appel n'est pas jugé. Mais après, on sait tous vers quelle finalité ça va. Quand ils seront à l'appel, ils diront au juge, écoutez, les travaux sont pratiquement terminés, on ne peut plus l'arrêter. En fait, c'est la politique du fait accompli. Et contre ça, on est contre. C'est pour ça qu'on continue à se battre. Mais là, ils travaillent de 4h30 du matin à 23h. Et en fait, ben, les riverains sont excédés. Ils travaillent sans dérogation. Ils ont demandé une dérogation il y a à peine 6 jours, alors que ça fait 2 mois qu'ils travaillent sans dérogation. On s'aperçoit aussi qu'il y a une entreprise de sécurité qui travaillait pour Atosca, et le gérant de cette entreprise de sécurité s'est fait attraper avec 6 personnes pour violence en groupe. En fait, j'ai plus les termes exacts. En gros, ils se sont fait attraper parce qu'ils ont incendié la maison d'une personne qui s'appelle Alexandra, qui avait des enfants, pour qu'elle parte plus rapidement, pour que les travaux aillent plus vite. Ils risquent jusqu'à quand même 20 ans de prison. Et ils ont été payés, ces gens-là, pour faire ces dégradations. Je laisse les auditeurs et les auditrices se demander qui a bien pu les payer, puisqu'ils travaillaient pour l'entreprise de sécurité, travaillaient pour Atosca, donc la société qui construit la 69. Donc, vous voyez, après, on nous traite à nous d'éco-terroristes. Voilà, il faudrait peut-être un petit peu pointer les vraies personnes qui sont incriminées, quoi, voilà.
Et pour ce faire, vivement conseiller aux auditeuristes de regarder le off investigation consacré à Macron et la 69, où, comme par hasard, on découvre que Macron a des copains qui ont des intérêts financiers dans cette affaire. Voilà, et à se demander qui sont les voyous. Et puis d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, hein, qui finit avec un bracelet électronique, voire même incarcéré, alors qu'il a été président de la République précédemment. Enfin, le sacré républicain en a pris un coup quand même. Hein.
Oui, bien sûr. Après, on peut creuser. Hein. Enfin, je pense que tout le monde est au courant maintenant. Mais Jean Terlier, c'est le député du Tarn, Renaissance, du parti du président de la République, qui s'attribue la gloire d'avoir été réélu une deuxième fois suite à la dissolution de l'Assemblée nationale. Il a été réélu parce que beaucoup de personnes ont fait barrage au Front National. Hein. Il a été remis en place à cause de ça. Et donc sa femme travaille chez les laboratoires Pierre Fabre. Mmh. Les laboratoires Pierre Fabre, c'est eux qui ont demandé la construction de cette autoroute, puisqu'ils ont investi au capital de la société Atosca, qui sont les constructeurs de l'autoroute. Et donc, il y a une vraie pression de la part des laboratoires Pierre Fabre qui veulent cette autoroute. Ensuite, on nous dit que cette autoroute, elle est d'intérêt public. Absolument pas. En fait, c'est les laboratoires Pierre Fabre qui l'ont demandé. Ils ont même mis une pression au ministère des Transports en disant que si cette autoroute ne se faisait pas, ils n'investiraient plus dans le sud du Tarn, hein, d'accord ? Tout ça, ça a été révélé au grand jour par des cellules d'investigation de Radio France, ça a été très bien fait. Tout le monde a compris aujourd'hui, la bataille de l'opinion publique, ça fait bien longtemps qu'on l'a gagnée. Mais en tout cas, le problème, c'est que cette autoroute, elle continue, quoi, voilà.
L'idée, en fait, c'est quand même aussi de fabriquer des autoroutes, des couloirs à camions qui permettent de sillonner l'Europe de Gibraltar à Rotterdam et de Bordeaux à Budapest. Et ce petit bout d'A69, là, c'était finalement un bout de couloir